Saviez-vous que dans le pays de Vaud, au Moyen-Âge, le pouvoir politique et le pouvoir religieux, pourtant en conflit depuis toujours, ont été forcés de s'unir? Effectivement, le 20 octobre 1275, à la cathédrale de Lausanne lors de sa consécration, le pape Grégoire X et l'empereur Rodolphe Ier de Habsbourg fusionnent leurs deux pouvoirs dans un événement clé de l'histoire vaudoise.
Bonjour, je m'appelle Yaël Erny, je suis étudiante en première année de maturité au gymnase de Crissier, dans le canton de Vaud. Et avec mes camarades de classe, Yona Favre et Alicia Fontanella, nous allons aujourd'hui nous intéresser à plusieurs sujets, notamment le pays de Vaud au Moyen-Âge, le Saint-Empire romain germanique, la maison de Savoie, mais surtout, nous allons principalement nous centrer sur le pouvoir politique et le pouvoir religieux. L'évêque de Lausanne détenait le pouvoir religieux. Quant au pouvoir politique, lui était détenu par la maison de Savoie ainsi que les seigneurs locaux. Mais il faut surtout savoir que les deux pouvoirs n'étaient pas séparés et entraient parfois en rivalité. Ils se concurrençaient surtout pour le contrôle du territoire et de la justice, mais ils savaient aussi coopérer en fonction des intérêts.
Le 20 octobre 1275, le pape Grégoire X et l'empereur Rodolphe Ier de Habsbourg se sont rencontrés à la cathédrale de Lausanne. Comment s'est passée leur rencontre?
Parce que on sait peut-être comment s'est préparée la rencontre, peut-être les conséquences politiques, mais la cérémonie en tant que telle, en fait, on ne sait pas très bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, enfin, on a créé une rencontre entre l'évêque et entre l'empereur et le pape, parce que il y avait des tensions entre l'empire et la papauté. Commission pour des territoires. Et là, c'était une période de tension, si je me souviens bien. L'évêque de Lausanne, effectivement, arrive à organiser en plus une réunion entre lui et l'empereur pour pacifier les tensions qui, effectivement, ont eu un effet durable. Hein. Donc ça, c'était une réussite.
Quelle réaction cette rencontre a-t-elle provoquée pour les habitants du pays de Vaud?
Ils arrivent effectivement à organiser cette rencontre pour pacifier les tensions qui effectivement ont eu un effet durable. Hein, donc ça, c'était une réussite. Mais l'évêque avait surtout en tête autre chose pour Lausanne et son diocèse, c'était la consécration de l'église. C'est pas une vraie consécration, faudrait plutôt parler de reconsécration, puisque en fait il y avait déjà eu une église romane qui avait forcément été consacrée pour pour pouvoir faire des cérémonies religieuses. Donc là, on parle d'une reconsécration. Elle est même assez tardive, parce que maintenant, on pense que la cathédrale était déjà terminée une vingtaine, voire une quarantaine d'années auparavant. Hein. Donc voilà, je pense que l'évêque, enfin, je sais pas pourquoi ça a duré aussi longtemps. Il y avait en tout cas la volonté d'avoir des personnalités prestigieuses réunies à Lausanne pour le faire. Il fallait que le pape vienne aussi. Hein. Un déplacement du pape à l'époque, c'est pas rien. Hein. Depuis Rome, c'est un pape, mais c'est sa suite. Hein. C'est pas juste lui, c'est des énormes un personnel important avec lui. Donc voilà, il fallait trouver le bon moment et le bon pape pour le faire, et le bon évêque aussi pour organiser tout ça, parce que c'est énorme aussi hein, d'accueillir un pape et sa suite, plus un empereur et sa suite. J'avais juste retrouvé des noms. Il y a 8 cardinaux, 5 archevêques, une douzaine d'évêques. Donc c'est vraiment une suite. C'est vraiment tous les hauts dignitaires de la région qui se trouvent réunis à Lausanne. Donc c'est un gros événement à organiser.
Quelle réaction cette rencontre a-t-elle provoquée pour les habitants du pays de Vaud?
Là aussi, on n'a pas de récit, à mon avis. Donc on n'a qu'un discours peut-être de propagande qui dit que c'était sûrement un grand succès et que tout le monde était content, mais on ne sait absolument rien de la population. Je pense surtout que la population a dû donner de l'argent pour financer la rencontre. Donc après, j'espère qu'ils ont eu une belle fête pour eux, aux récompenses, et puis quelques messes pour le salut de leur âme. Mais sincèrement, j'en sais strictement rien et personne ne pourra jamais le savoir.
C'était donc la première fois que le pape Grégoire X et l'empereur Rodolphe Ier de Habsbourg se sont réunis. Cela s'est déroulé à Lausanne, premièrement pour la consécration de la cathédrale et ainsi démontrer la paix entre ces deux pouvoirs, mais aussi car Lausanne était la ville la plus sûre et la plus neutre du pays de Vaud. Comment l'empereur et le pape exerçaient-ils leur autorité sur le pays de Vaud?
Déjà, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que l'autorité du pape et du pays de Vaud, elle est très très lointaine. L'autorité du pape, elle va s'exercer notamment sur Lausanne, qui est une ville épiscopale, c'est-à-dire que le chef de la ville, le chef à la fois religieux mais surtout temporel, c'est l'évêque. Et l'évêque, c'est le pape qu'elle le nomme. Donc le pape, son pouvoir sur en fait le pays de Vaud, ça sera sur les monastères, les bâtiments religieux qu'on va retrouver dans le pays de Vaud, enfin les bâtiments, les institutions religieuses qu'on trouve dans le pays de Vaud, et en fait majoritairement sur Lausanne, en nommant le pape. L'empereur, par contre, lui, il a un pouvoir vraiment très très lointain. C'est lui qui est au-dessus, par exemple, le pape. Il est l'évêque de Lausanne, il va être nommé par le pape, mais son pouvoir temporel, c'est spirituel, c'est le pape qui lui le donne, mais son pouvoir temporel, il lui est donné par l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que en dehors de nommer l'évêque seigneur, l'empereur, ce qui se passe à Lausanne, ça n'intéresse pas. D'ailleurs, il y a plusieurs fois, il y aura des tensions entre les habitants et les habitantes de la ville et avec l'évêque. L'empereur, il regarde un peu tout ça de loin et de temps en temps, ils viennent se plaindre, ils lui envoient des lettres. Il répond pas toujours. Enfin, non, c'est vraiment pas tellement son. Il est le chef tout en haut, mais c'est un chef tout en haut assez. Il regarde ce qui se passe de loin.
Donc on l'a compris, l'empereur et le pape n'avaient pas du tout la même manière d'exercer leur autorité sur le pays de Vaud. Et ces doubles influences se ressentaient concrètement dans la vie et l'organisation du territoire. Comment l'Église pouvait-elle jouer un rôle important dans la vie des habitants du pays de Vaud ?
Il faut déjà comprendre que l'Église, à cette époque-là, n'est absolument pas séparée de l'État. Donc, contrairement à aujourd'hui, on n'a pas une séparation entre, d'un côté, ce qu'on pourrait dire, un pouvoir laïque et un pouvoir religieux qui sont complètement séparés. C'est complètement imbriqué. Et donc, la religion, d'une certaine manière, accompagne l'ensemble des grandes étapes de votre existence. Typiquement, tout le monde est croyant à l'époque, tout le monde est baptisé, tout le monde va régulièrement à la messe, doit se confesser, hein, pratiquer l'Eucharistie, etc., etc. Donc, d'une certaine manière, pour les habitants de la région, la religion est omniprésente dans leur existence et à de nombreux moments qui parcourent l'année. Ensuite, la religion est présente de différentes manières. Vous avez le clergé qu'on appelle séculier, donc les prêtres, l'évêque de Lausanne, qui accompagnent les fidèles dans leurs pratiques religieuses au quotidien. Mais vous avez également dans le pays de Vaud un grand nombre de membres, enfin un grand nombre de moines, typiquement ce qu'on appelle le clergé régulier, qui sont réunis dans des monastères ou des abbayes. La région vaudoise est connue pour abriter de nombreuses abbayes. On a les plus connues avec l'abbaye de Romainmôtier, l'abbaye de Payerne, qui sont des lieux à la fois de pouvoir, mais également des lieux religieux extrêmement importants. Et je dirais pour terminer que à l'époque médiévale, la religion aussi représente d'une certaine manière le pouvoir dans le pays de Vaud, puisque l'évêque de Lausanne n'est pas simplement le souverain ecclésiastique de la région, c'est également le souverain temporel de toute une région du pays de Vaud qu'on appelle l'évêché de Lausanne, qui comporte la ville de Lausanne actuellement, mais également une partie des paroisses qui forment actuellement le Lavaux.
On a vu que l'Église occupait une place centrale dans le pays de Vaud. Bien au-delà de la religion, elle était soudée à l'État. Il était donc impossible de l'éviter. Elle avait une présence quotidienne et influençait directement la vie des habitants, ainsi que leur organisation dans la société. Comment les décisions politiques étaient-elles transmises aux habitants ?
Comment c'était retransmis à la population, les informations ? Ça, c'est par crier, parce que la population du Pays de Vaud, majoritairement, ne savait pas lire. Et donc, en fait, c'était des personnes qui étaient employées par la ville, qui souvent soit savaient lire, soit avaient enregistré dans leur tête ce qu'il fallait leur dire, et qui allaient se balader dans la ville et crier les informations. Enfin, en gros, parler très fort et transmettre à la population les informations. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a certaines de ces criées, on les a par écrite, ce qui est logique, parce que c'était la décision de l'évêque, et on peut voir qu'au début du document, c'est écrit en latin, et ça va être écrit, il faudra changement de réglementation sur ça. Ça, c'est écrit en latin. Et ensuite, il y a ce que la personne qui va crier doit dire, ce que le crieur va dire, et là c'est écrit en français. Parce que c'est ce qui va être crié tel quel à la population, il faut que la population comprenne, on n'aura pas le latin. Donc c'est comme ça qu'on a les informations.
Cela montre aussi bien la différence hiérarchique entre les habitants qui ne savaient pas lire et ceux qui transmettaient les décisions qui, eux, le pouvaient. Comment l'Empire germanique gérait les routes et les villes du pays de Vaud ?
Alors les routes, ça dépend un peu. Elles sont plus ou moins surveillées par la Savoie, si je me trompe pas. Ça va dépendre des cas. Enfin, bon, tout ce qui est Lausanne, c'est de nouveau l'évêque. Ça, c'est vraiment un territoire épiscopal. Mais on a les grandes routes de commerce. Ça va être notamment les routes qui partent... Enfin, on a des axes qui vont de Genève à l'Italie et de l'Allemagne à l'Italie. En fait, c'est ça qui est intéressant avec la Suisse romande, c'est qu'on est dans l'axe pour se rendre en Italie, ce qui est encore le cas maintenant. Par contre, il faut s'imaginer qu'il n'y avait pas les tunnels, il fallait passer par-dessus les montagnes. Et par-dessus les Alpes. Et donc, en fait, ces axes, les grands axes de circulation, notamment le Genève, Morges, Lausanne, Valais, ça, c'était vraiment la Savoie qui les contrôlait, notamment avec des châteaux. Vous aurez le château de Morges, ensuite il y a aussi le château de Chillon, plus loin, en direction le Valais. Et ça, c'est même des lieux de, non seulement de, un peu surveillés, mais aussi des lieux de péage. Parce que, tout comme maintenant, la famille de Savoie prélevait un certain péage sur les marchandises. Et les deux lieux principaux, ben voilà, c'est Morges et c'est Chillon. Et dans l'autre axe, ce sera l'axe Allemagne, Fribourg, et du coup de nouveau un peu Lausanne, et ça part ensuite de nouveau vers le... Voilà, en fait, c'était les grands axes, c'était bien surveillé, les petits axes, moins, ça devait plus ou moins dépendre aussi des petits seigneurs locaux, les moyens qu'ils avaient, ou pas, et bien sûr des périodes. Quoi.
Okay. L'Empire germanique devait s'assurer que la Savoie gérait bien le fonctionnement des axes de circulation pour que le commerce et les échanges entre les villes aient lieu facilement.
Pour conclure, revenons à ce 20 octobre 1275 dans la cathédrale de Lausanne. Cette rencontre, au moment de la consécration, dépasse le cadre religieux. Elle met face à face le pouvoir spirituel et le pouvoir politique dans un équilibre tendu et symbolique, révélant toute la complexité du Moyen-Âge vaudois. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage au cœur du Moyen-Âge vaudois, là où la foi et le pouvoir se croisent, se confrontent et façonnent l'histoire. Nous remercions également chaleureusement les spécialistes qui ont accepté de répondre à nos questions et partager leur expertise.